Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine, tous les lundis matin, 6h15, et vous retrouverez toutes les notes du podcast, livres à lire, références ou citations sur le blog www.le-du-6-gratin.fr que vous trouverez en lien dans le descriptif de l'épisode. Quelques petits détails pratiques avant de passer à mon invité du jour. Alors d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Comme ça, pas besoin de guetter le lundi matin. Deuxièmement, même si ceux qui m'écoutent régulièrement en ont marre, je m'en doute, mes piqûres de rappel sont pénibles, mais néanmoins utiles, je vous invite à mettre un avis positif, j'espère, sur iTunes. Vous pouvez aussi mettre un avis négatif si vous n'aimez pas, évidemment. Mais en tout cas, vos avis comptent. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez 2 minutes, s'il vous plaît, pour le faire. C'est très facile, il faut cliquer en bas de la page du gratin sur iTunes, sur rédiger un avis. Et ça m'aide énormément. J'en profite pour remercier au passage les 2000 personnes qui ont déjà fait ce geste, ça m'aide vraiment énormément. Troisièmement, vous le savez, j'ai lancé il y a peu une newsletter, la News du Gratin, en plus du podcast, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend à peine 5 minutes à lire. Et c'est justement le pendant, on va dire, rapide en termes de contenu par rapport au podcast qui est un format beaucoup plus long. La semaine dernière, j'y évoquais un sondage qui me permettra de comprendre mieux qui vous êtes. Je me rends compte qu'en fait, on discute un petit peu sur les réseaux sociaux et vous me faites très souvent des feedbacks par mail ou sur Instagram ou sur Twitter d'ailleurs. Mais finalement, je ne sais pas réellement qui écoute le podcast. Donc je voulais vraiment prendre ce temps et essayer de vous connaître un petit peu mieux. C'est aussi un endroit idéal pour faire vos feedbacks et puis essayer de comprendre un peu mieux vos habitudes d'écoute de podcast. Ça m'intéresse énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets le lien pour participer au sondage dans les notes de l'épisode. Vous les retrouverez également sur LinkedIn, sur mon Instagram, un peu partout. Ça prend 5 minutes à faire, donc pas d'excuses. Et voilà, et si vous voulez également vous inscrire à la News du Gratin, bien évidemment faites-le, c'est très simple. Il suffit de le faire sur le site www.le-du-6-gratin.fr. Ça sort tous les vendredis matin assez tôt pour bien finir la semaine et commencer le week-end. Voilà, fini avec les petits détails pratiques, on va passer maintenant à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de recevoir Jean-Claude Bourrelier, qui est le fondateur de Bricorama. Jean-Claude est une personne que j'admire énormément. Il est né dans un milieu particulièrement humble, il était sourd. Il a quitté l'école à 13 ans pour devenir charcutier. Donc vous aurez compris que sa vie aurait dû être tout autre. Pourtant, cet autodidacte sait saisir les opportunités qui se présentent, nourrir son ambition en se formant en permanence, le propre des autodidactes d'ailleurs selon lui, pour aller toujours plus loin. En 1975, il ouvre sa première boutique de bricolage, un peu par hasard parce qu'il travaillait à l'époque chez Black & Decker, sans argent, sans financement extérieur, sans diplôme et sans connaissance business. En 2016, le groupe Bricorama comptait 251 magasins, 4600 salariés et réalisait plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il finit par vendre une grosse partie de son activité en 2018 et se consacre aujourd'hui, à 72 ans, à de l'investissement. Comme vous pourrez le constater, le chemin parcouru rend humble, il est juste incroyable et sincèrement je pense que peu d'entrepreneurs au monde ont un parcours aussi extraordinaire. Mais je pense que son exemple nous montre aussi qu'à force de passion, de travail et de bon sens, comme il le dit souvent, tout est possible. Avant de commencer par discuter avec Jean-Claude, je voulais vous lire un extrait de son livre, Ma boîte à outils pour la reprise, que je vous invite d'ailleurs à lire également et qui m'a particulièrement marqué. Jean-Claude nous dit « De tout temps, en toutes circonstances, l'association de deux moteurs que sont l'insatisfaction et l'ambition est à l'origine de l'entrepreneuriat, poussant à prendre des initiatives, innover, lancer des constructions intellectuelles ou matérielles dans tous les domaines. Pas seulement dans l'entreprise, mais aussi en politique, comme dans tous les métiers, et cela n'est pas honteux, bien au contraire. Ces moteurs sont nécessaires pour modifier son destin et s'engager sans limite à progresser, sans économiser sa peine. Agir sans attendre et donner énormément avant de recevoir, savoir que rien n'est dû, que tout est un devoir. Un manque qui trouve sûrement ses racines dans mon enfance. » Je pense que vous aurez compris qui est le personnage, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Claude Bourrelier. Bonjour Jean-Claude et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast.
Oui, bonjour Pauline, le plaisir est partagé.
Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, déjà parce que vous êtes une icône dans le monde du bricolage et de l'entrepreneuriat en France, et aussi parce que vous êtes un autodidacte et que je pense que votre exemple peut réellement être très utile et très inspirant pour les auditeurs, parce que beaucoup d'entre eux se demandent s'il est possible de réussir à faire de très grandes choses et à construire de grandes entreprises quand on est autodidacte. Et je pense que vous êtes un merveilleux exemple à cet égard. Donc du coup, je voulais justement commencer par le commencement et parler de votre enfance, si ça vous va, avant Bricorama, avant tout ça. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et que vous me disiez, je crois que vous êtes né à Saint-Calais,
oui,
dans la Sarthe.
Exact.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre vie d'enfant, comment c'était ?
Oh là là, ça est très très triste. À côté Notre-Dame de Paris, c'est vraiment un roman rose.
C'est vrai.
Oui, c'est une enfance, enfin, je ne vais pas dire malheureuse, parce que d'une famille nombreuse avec cinq enfants, mon père pupille de la nation, ma mère de l'assistance publique, mon père ouvrier menuisier qui a eu la maladie, le cancer des menuisiers, donc qui a beaucoup souffert, ça a été vraiment dramatique. Et ben, on était quand même heureux, parce que je pourrais vous montrer les conditions dans lesquelles on vivait, mais on avait une famille qui habitait à côté de nous et qui était beaucoup plus difficile.
Encore.
Parce que notre père ne buvait pas, alors qu'en dessous de chez nous, c'était un ouvrier de fonderie, ils étaient 8 enfants, c'était des drames chez eux quotidiens. Donc on était pauvres, mais pas vraiment malheureux. Non, le malheur est venu avec la maladie du père. Et puis, moi, le grand désespoir, ça a été que j'étais sourd. Mais du fait que j'étais sourd, j'étais un très, très bon élève. Et le drame, ça a été que j'ai été obligé de quitter l'école, alors que j'étais un très bon élève et que j'adorais l'école. Et ça, c'est vraiment la grande tristesse. Autodidacte, j'ai pas quitté j'adorais l'école, c'était vraiment une grande tristesse que de le quitter.
Bon. Et pourquoi vous avez quitté l'école ? Du coup, à quel âge vous avez quitté l'école ?
Ben à 13 ans.
À
13 ans, j'ai commencé à travailler comme apprenti avant 14 ans. Enfin, je suis un peu snob hein, quand même, faut pas exagérer. J'ai commencé à travailler le 1er juillet. À cette époque-là, dès qu'on avait le certificat d'études, hop, on allait travailler. Et j'ai eu 14 ans le 16 août. Alors, vous voyez, c'est un peu du snobisme.
Oui,
mais,
13-14 ans.
Bon, allez, par les temps qui courent, maintenant, je vois les petits-enfants à 13 ans, on est vraiment encore des enfants.
Ah quoi. Oui, on a mis lieu de travailler.
Voilà, donc on n'imagine pas. Mais à cette époque-là, dans le milieu dans lequel je vivais, bon, c'était pas... Tous mes frères et sœurs, tout le monde a été commencé à travailler à 14 ans, donc c'était pas dramatique. Non, le drame, c'est de pas pouvoir avoir pu continuer des études, parce que enfin, tout le monde sait bien, enfin, tout le monde en prend connaissance de plus en plus, mais la vie avec ou sans études ou sans diplôme, c'est pas du tout la même, quoi. Vous pouvez, si vous avez la même, est-ce qu'on a la même niaque quand on vous avez une vie facile que quand on a une vie difficile? Ça, c'est pas souvent le cas. Il faut souvent avoir des insuffisances ou avoir une volonté pour vous donner cette niaque qu'il faut pour entreprendre, quoi. Il faut vouloir combler un vide.
Ouais, c'est sûr.
Mais l'entreprise était pas forcément ce que j'aurais voulu faire, mais c'était le moyen pour exister, quoi.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'âge de 13 ans? Quel a été votre premier boulot?
Ben, mon premier travail, ça a été apprenti boulanger.
D'accord.
Et puis, au bout de 6 mois, comme j'étais sourd et que je n'avais pas de tympan, au bout de 6 mois, le médecin, j'entendais plus, encore moins, le médecin a dit, il doit, avec la poussière de farine, ça ne peut pas durer, donc il faut changer de métier. Alors, pour changer de métier, j'ai changé de rue, quoi. Puisque juste en face, il y avait un charcutier qui cherchait un apprenti. Ben, je suis rentré en apprentissage comme charcutier. Métier très, très
ouais,
difficile.
Oui, c'est pas facile. Hein. Voilà, déjà, boulange, c'est pas facile.
Mais à la boulangerie, à côté, c'est dur parce qu'on se lève. Quand on fait de la grasse matinée, on se levait à 4 heures du matin. Sinon, le samedi soir, c'était le travail à partir de 11 heures. Non, mais c'était moins dur que la charcuterie parce qu'on est dans le chaud. Alors que dans la charcuterie, on est dans l'eau, dans le froid. En plus, à cette époque-là, on faisait l'abattoir. On allait tuer les bêtes à la campagne. Tout ça, c'était vraiment...
Oui, ça devait pas être
plus, je vous dis, Zola, à côté, c'est Zola, quoi. C'était ouais. Zola. Mais bon, on se demande, mais quand on est pris dans un environnement, on est... Et puis, il fallait aller travailler pour gagner sa vie. Ouais, on ne pouvait pas rester à la maison parce qu'il n'y avait pas les allocations qu'il y a maintenant.
Oui.
C'est tout récent puisque je suis encore vivant. Donc, c'est hier, mais c'est un hier qui a beaucoup évolué,
ouais, ça a beaucoup changé.
Quoi. Donc, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Ça vous arme de volonté, ça vous... Voilà, quand on a la chance, mais derrière, il faut avoir beaucoup de chance, quoi.
Et alors, vous avez fait ça, apprenti charcuterie pendant quelques années, je crois.
Voilà, c'est ça.
Et
j'ai
eu
mon CAP de charcutier, brillamment. Et après, comme c'était à la campagne, il n'y avait pas de travail, donc je suis monté à Paris.
D'accord, je voulais vous demander pourquoi vous étiez monté à Paris.
Voilà,
je ne savais pas si c'était parce que vous aviez déjà l'ambition d'aller à Paris et vouliez sortir de votre condition, entre guillemets, ou si c'était...
Mon frère était parti à Paris avant moi, mes soeurs étaient parties avant moi à Paris. C'était à la campagne, il n'y avait pas de travail, donc il fallait à Paris. Voilà, donc si mon grand frère était parti en Australie, je serais
peut-être
sans doute parti en Australie. Si ça avait été la grande époque des migrations pour peupler le Canada, les États-Unis. Non, l'Argentine, c'était plutôt les Savoyards, mais bon, j'aurais fait partie des grandes migrations qui faisaient que dans les campagnes où il n'y avait pas de quoi vivre pour tout le monde, eh bien, on partait chercher fortune ailleurs, quoi. Voilà.
Et alors, vous montez à Paris, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un
boulot
de charcutier?
D'abord, comme ouvrier charcutier. Ouais. Et là, c'était vraiment un ouvrier charcutier. C'était vraiment très, très... Ça ne me plaisait pas. C'était un métier qui était difficile. Donc, j'ai fait... Après mon premier métier, j'ai donc abandonné. Juste à côté, il y avait Nicolas. Il y avait Nicolas et on discutait le soir après le travail. Et j'ai livreur chez Nicolas... Et il me disait que c'était bien, puis ça m'a donné envie. J'ai dit, tiens, il y a eu une place, et je suis passé livreur chez Nicolas. Livreur chez Nicolas, c'était un travail de sportif, puisqu'à l'époque, vous n'avez pas connu ça, vous n'étiez pas né, c'était les triporteurs Nicolas.
Ah oui.
Les triporteurs Nicolas avec les caisses de vin. Avec les caisses de vin, donc on livrait le vin, donc on mettait, c'était des colis de 30, 40, on mettait 15 litres de vin dans un sens, 15 litres de vin dans l'autre, et ça fait quel poids? C'est facile, ça fait 30 litres,
oui.
30 kilos,
30,
plus
ouais.
les bouteilles, ouais. plus les caisses,
ça
donc
fait quoi,
ça faisait
vous arrivez
environ
à 50,
40, 40, oui, 45 50. Kilos, quoi. 45 kilos à monter dans les étages, tout ça. Et en plus, il y avait les concierges. À l'époque, on n'avait pas toujours droit de prendre l'ascenseur. Donc, il fallait prendre l'escalier de service. Mais ça ne fait rien, ça forme physiquement. Quoi.
Ah oui,
mais
ça
me plaisait. C'était la belle. C'était beaucoup plus plaisant qu'enfermé dans un laboratoire de charcuterie.
À cette époque, est-ce que vous aviez déjà envie de changer d'environnement, de construire une entreprise, ou en fait, est-ce que c'est venu complètement par hasard? Quel était votre état d'esprit, vous diriez, à l'époque?
Non, pas du tout. À l'époque,
vous étiez très jeune.
Essayer de gagner sa vie, de s'améliorer, mais je n'avais pas cette ambition. Quoi. Mmh. Après, Nicolas, au bout d'un certain temps, j'ai dit, je ne vais pas passer ma vie chez Nicolas. Et puis, surtout, parallèlement, je me suis fait opérer des oreilles.
Ouais.
Et j'avais déjà été opéré à l'âge de 12 ans, mais ça n'avait pas réussi. Et là, j'étais un professeur à Paris, le professeur Fleury. Donc, ça a réussi. Il m'a donc redonné l'audition. Et là, quand vous commencez à entendre, la vie change. Quoi.
Ouais.
Et là, à partir de ce moment-là, bon, j'ai vu que le commerce, c'était plutôt le contact avec les gens, quand c'est quand même quelque chose qui est agréable. Quoi.
C'est quelque chose qui vous plaisait et vous sentiez que vous aviez du talent pour ça?
Non, pas vraiment.
Pas particulièrement.
J'étais pas vraiment talentueux. J'ai fait du commerce en porte-à-porte avec des gens talentueux et je mesurais que mon talent n'était pas à leur hauteur, quoi.
D'accord.
Donc, je faisais du porte-à-porte, tout ça, mais je n'arrivais pas à gagner suffisamment ma vie en faisant la vente au porte-à-porte. Donc, le soir et le samedi, j'allais au BHV pour faire comme extra, vous savez, comme démonstrateur. Et là, c'était formidable, quoi. C'était simple, c'était facile. À côté du porte-à-porte, là, j'avais du talent, puisque à cette époque-là, c'était la grande époque où le plus dur pour les industriels, c'était d'avoir des produits à vendre, tellement il y avait plus de clients.
Ah,
voilà.
Oui.
Les époques ont vraiment changé.
Sur le secteur spécifique du bricolage, c'était le cas?
Oui, c'était dans le sous-sol du BHV. Mmh. J'avais été mis démonstrateur dans une boîte d'électroportatifs qui vendait des perceuses.
D'accord.
Mais au bout d'un certain temps, j'ai dit, tiens, c'est bien. Et puis l'entreprise était tellement contente de moi qu'ils m'ont embauché pour aller démonstrateur sur toute la France. Donc là, la vie était belle amélioration. J'avais une voiture, j'allais dans les usines, dans les carrières et je faisais la démonstration des outils, quoi, pour... Mmh. La démonstration des outils. Mais ce qui était un peu pénible, c'était moi qui faisais le boulot et c'était le représentant qui prenait les commandes. Mmh. Ah, je dis, moi, c'est quand même incroyable. C'est moi qui fais tout le boulot, puis lui, il vient, il fait le beau, il est en cravate, et c'est lui qui a la commission. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai dit, démonstrateur, c'est bien, mais je voudrais être représentant.
Oui, bien sûr.
On m'a dit, mais représentant, t'es trop jeune.
Vous aviez quel âge à l'époque?
23, 24 ans.
Oui, vous étiez encore jeune.
23, 24 ans.
Mais vous aviez déjà 10 ans d'expérience de travail, mine de rien.
Et voilà, j'avais presque 10 ans que je travaillais déjà. J'ai dit, oui, mais bon... Mais je vois bien pourquoi vous l'embauchez. Vous êtes content de moi. Vous me dites que vous allez me donner la place dans quelques années. Mais moi, je pense que je suis capable tout ça de faire. Donc, eux, ils n'ont pas voulu me donner le poste de représentant. Mmh. Mais comme il y avait une autre entreprise qui s'appelait Black & Decker, que tout le monde connaît, cherchait des représentants, j'ai postulé, j'ai été pris.
D'accord.
Et là encore, grande satisfaction, la vie était...
Donc à ce stade, vous êtes assez heureux finalement de votre travail de représentant chez Black & Decker, parce que
Exactement, j'étais heureux, mais pas aussi longtemps que... Et pas aussi, ils étaient très contents de moi, et comme ils étaient très contents, j'ai bien vu que le représentant, c'était quelqu'un qui était... C'était bien, mais quand même, je voyais bien qu'au-dessus des représentants... Il y avait des gens qui le pilotaient et je voyais bien qu'il y avait du marketing derrière. Tout n'était pas... Je voyais bien que... je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, bon, au bout de quelques années, j'ai dit, bon, représentant, c'est bien, mais je ne veux pas être représentant toute ma vie. Mm-hmm. Donc, je voudrais aller au marketing. Et là, chez Black & Decker, on m'a dit, non, mais le marketing... T'y comptes pas, t'as pas les études, t'as pas les diplômes. Je dis, mais si je les ai pas, les diplômes, moi, je peux les avoir. Mais ils m'ont dit, oui, mais comment? J'ai dit, je vais prendre des cours du soir et tout. On m'a dit, oui, mais nous, on ne peut pas te les payer, tout ça. J'ai dit, si vous ne pouvez pas me les payer, ce n'est pas grave, je vais y aller quand même. Et j'ai fait l'ESSEC en cours du soir. Quoi.
D'accord.
Enfin, l'ESSEC en cours du soir, c'était les premières écoles. Alors, on en faisait tout un monde, mais j'ai trouvé... Alors, il y avait deux choses. j'ai trouvé que c'était la première école qui mettait le principe d'Harvard en France, où c'est-à-dire il n'y avait pas de cours magistraux,
oui,
mais on faisait
des business case, des études de cas.
Voilà, là, oui, en français.
Pardon, vous avez bien raison, Jean-Claude.
On faisait les études de cas, donc on était une dizaine à peu près, des petits groupes, quoi. Mais c'était compliqué pour moi, parce que comme vous dites, il y en a quelques-uns, c'était le Kotler qu'il fallait étudier, on travaillait beaucoup le Kotler, et dans le Kotler, il y avait quand même des parties avec des mathématiques.
Oui, c'est pas facile. Ouais.
Voilà, c'était pas facile, et je me souviens qu'à un moment, j'étais découragé, et c'était tous mes collègues qui m'avaient dit « Non, non, surtout tu restes avec nous, parce que toi, tu as du bon sens ». Et je ne savais pas ce que c'était que le bon sens. Moi, je connaissais le sens interdit, mais le bon sens, vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le bon sens? On ne sait pas, on ne le sait qu'après. On ne le sait qu'après, puisqu'il n'y a qu'après qu'on sait si on a une bonne vision des choses, qu'on a bien fait les choses. Donc, ça a été... Et donc là, quand j'ai eu mon diplôme... J'ai été voir Black & Decker, j'ai dit, bon, ben, voyez, j'ai mon diplôme. Ah oui, mais t'y comptes pas, c'est pas ça, et puis nous, ceci, cela. Enfin, j'ai dit, c'est pas possible, ça. Donc, la seule solution, c'est de me mettre à mon compte. Et comme j'étais chez Black & Decker, je visitais les magasins de bricolage, les hypermarchés, les choses comme ça. J'ai dit, ben, moi, je vais monter un magasin de bricolage.
Et alors, comment, justement, je voulais vous poser la question, j'ai plein de questions. Au niveau de l'opportunité, déjà, je comprends que vous étiez dans le secteur du bricolage. Donc ça, j'ai bien compris. Et en plus, j'ai l'impression que vous étiez plutôt bon et que ça vous plaisait. Mais à quel moment vous vous dites... je vais créer mon propre magasin de bricolage. Il y avait vraiment une opportunité?
Non.
Vous sentez qu'il y avait un truc qui manquait sur le marché?
Non, c'est la nécessité qui a fait loi. Comme ils ne voulaient pas me... À chaque fois, j'étais patati, patata. Je voyais bien,
fallait
à chaque fois, j'avais
idée.
Un gros handicap de diplôme, tout ça. Je dis, la seule solution, c'est de me mettre à mon compte. C'est quand même pas compliqué. J'ai visité des magasins de bricolage. Je dis, c'est quand même
pas si compliqué
que ça, quoi. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai dit, c'était le seul moyen d'évoluer. Donc, j'avais un copain, je jouais au foot avec un copain. On était de même... Et lui, il avait un peu le même problème. On dit, on va s'associer et on a monté le magasin.
Alors, c'est rigolo parce que vous n'arrêtez pas d'utiliser le mot « je voulais évoluer, il fallait évoluer » et on voit bien dans votre parcours que vous ne vouliez jamais stagner.
Exactement,
vous vouliez complètement…
Ouais. Exactement.
Ça a toujours été important pour vous parce que vous auriez vous contenter de rester en charcuterie ou de rester…
Non, mais ce n'est pas le statut. Mais quand… peut-être que j'avais un peu d'orgueil ou un truc comme ça. Je pensais que je méritais mieux que ce que j'avais. Et souvent, on me mettait sous prétexte que j'avais pas les diplômes et puis sous prétexte que j'entends pas bien, tout ça. Donc, vous avez une espèce de frustration qui vous fait ambitionner, quoi, qui vous fait dire ah ben non, je vais pas faire que subir. Mmh. Et surtout que on était d'une famille pauvre, mais il y avait une seule chose qu'on m'a toujours dit depuis. D'ailleurs, ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours vu mon père travailler. Il arrivait, fallait travailler dans le jardin. On l'aidait, fallait ramasser du bois, couper le bois, on n'avait pas l'eau, fallait aller chercher.
Donc votre père vous disait tout le temps de travailler.
Voilà, et il n'y avait qu'un seul mot. Le père, il était sobre, il ne fumait pas, rien du tout. Mais il n'avait qu'un seul mot à la bouche, le travail, le travail, le travail avant tout, quoi. Et c'était le travail. Il ne pouvait pas, dans la vie, y avoir une autre sortie dans la vie que par le travail. Les autres domaines, on ne savait pas ce que c'était. On n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir une autre sortie dans la vie que par le travail.
Vous avez parlé donc de votre passage à l'ESSEC. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, cette école, au niveau de la formation, mais même intellectuellement ou au niveau de votre confiance en vous, peut-être?
Oui, ça a beaucoup changé et je conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce que le soir, j'ai découvert ce que je faisais dans la journée. Parce qu'à l'époque, Black & Decker était vraiment, c'était une entreprise américaine et qui était vraiment la plus innovante en marketing. Et là, dans la journée, je comprenais tout ce que je faisais, parce que tout avait été marketé, tout était encore il y a quelque temps, je racontais à qui? Ah oui, c'était un commerçant qui me disait effectivement, c'est L'Oréal qui lui proposait de mettre un écran de télévision, un écran dans la vitrine de son salon de coiffure, et je lui disais non mais attends, ça va pas, c'est tu vas pas donner de l'argent à L'Oréal, c'est L'Oréal qui doit t'en donner.
Ah bah
pourquoi
oui.
Parce que ils font de la publicité à la télévision et leur produit est connu, mais s'ils ont pas de distributeur, s'ils retrouvent pas le produit sur leur lieu de vente, eh bien leur publicité à la télévision ça sert à rien. Donc toi, tu vas payer. Non, c'est eux qui doivent te payer. C'est la loi du marketing. Donc vous voyez, quelques dizaines d'années après, j'ai encore le sens du marketing en disant le lien qu'il y a entre la théorie, la pratique, la cohérence, tout ça. Non, non, et ça m'a beaucoup... Je ne le savais pas. J'ai découvert que quand je me suis mis à mon compte, que vraiment, je savais des choses. Pour moi, c'était évident que tout le monde le savait, mais j'ai découvert que y avait des choses simples que les gens oubliaient et que peut-être que les choses les plus simples, les gens n'y prenaient pas d'attention. Donc c'était c'est moi qui me les suis payés, ça m'a coûté cher. Mais ça m'a rapporté gros. Les études, c'est ce que je dis toujours, c'est le meilleur investissement qui soit. Faites-le pour vos enfants. Si vous en avez bénéficié, mesurez-en la vraie valeur. Quoi.
Justement, ça tombe bien parce que je voulais vous poser une question sur le fait que vous étiez autodidacte. Et après, on parlera évidemment du début de Bricorama. Mais je voulais savoir votre sentiment maintenant avec du recul. Donc, vous avez fait quand même ces études à l'ESSEC. Mais au-delà de ça... Pour
en
vous, ça a été
soir,
plutôt...
Hein.
Ouais, en cours du soir, c'est ça. Donc
c'est pas passé pour...
Non, mais c'est ça, c'est pas non plus...
Pour un énarque.
Hein. Est-ce que... On vous le souhaite pas. Est-ce que vous avez...
Bah, moi, j'aurais bien rien. Alors là, franchement, vous n'êtes pas gentille avec moi. Parce que moi, si vous vouliez me faire plaisir, c'est de me souhaiter d'être un énarque.
Bon,
je trouve... Non, mais je tiens les énarques en haute considération.
D'accord, très bien.
Jamais vous m'entendrez dénigrer les études, surtout pas l'ENA, où je trouve qu'à l'ENA, ils ont une scolarité très intelligente.
Bah, en tout cas, c'est des études très difficiles. Ça, c'est quelqu'un qui a échoué pour y arriver qui vous le dit.
Difficile, je ne suis pas sûr. Difficile, je ne suis pas sûr que ça soit si difficile que ça. C'est, bon, naturellement, c'est pour y rentrer. Mais je trouve que les études, ils ont une formation intellectuelle après Sciences Po qui est vraiment, qui leur donne... Moi, j'ai... Je pourrais, si vous avez lu mon livre, vous devriez le savoir. J'ai beaucoup fréquenté l'ENARC et j'ai toujours été. Alors, je ne sais pas, ils avaient une haute considération à mon égard. Ça paraît incroyable, quoi. Chose que je n'ai pas retrouvée chez des polytechniciens, chez des ingénieurs ou des choses comme ça. Donc, alors qu'avec les ENARC, j'ai toujours eu de très bons rapports, des énarques qui sont devenus ministres et tout, hein, que je peux rencontrer encore maintenant, ils me tiennent en haute considération. Et à l'époque, j'étais représentant à l'époque. Eh bien, ils me tenaient en considération.
Et la question que je voulais vous poser, c'était sur le fait d'avoir été autodidacte. Est-ce que vous estimez que ça a été d'une certaine manière une chance parce que finalement, vous avez commencé à travailler beaucoup plus tôt
non.
Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment
pas
une chance?
Non. Pitié,
c'est clair.
Pitié.
Non, mais je pose la question, j'en
non,
sais
non,
rien.
Non, mais c'est sûr. Ma réponse est non, pitié. Les études, restez à la maison jusqu'à 30 ans si vous le pouvez, si vous avez des parents qui vous acceptent. Mais après... Pour vous former, tout ça, non. Non.
Bon, au moins, ça le mérite d'être très clair. Si on parle justement du début de votre entreprise, donc vous vous lancez, à l'époque, vous avez autour de 29 ans, c'est ça?
C'est ça.
Donc, vous avez travaillé quand même depuis un moment et vous lancez cette première boîte. C'est quoi les premières étapes? Parce que vous n'y connaissez rien quand même à la création d'entreprise.
Je
ne
connaissais rien. Si, quand même, j'étais représentant. J'allais dans
le... Alors, vous connaissez le secteur,
voilà,
etc.
Voilà, je connaissais
mais...
le secteur. Je voyais bien le... Et puis, bon, ben, j'étais sociable, avenant, tout ça. Et je me souviens que, bon, j'ai le magasin dans lequel j'ai commencé... est toujours en activité. D'ailleurs, il faut que j'aille cette semaine le voir parce qu'il y a le directeur, il m'a dit qu'il prenait sa retraite à la fin de la semaine. Donc, il m'a dit, ah, j'espère que vous allez venir me voir avant que je parte en retraite. Donc, faut pas que je l'oublie. Ce magasin fonctionne toujours. C'était en 1975. C'était en pleine crise de pétrolière où les gens disaient, non, mais c'est pas le moment de s'installer. En plus de ça, à 300 mètres, il y avait un centre commercial qui ouvrait avec une grande surface de bricolage, mais entrepreneur inconscient, j'ai dit tout ça, c'est pas grave, quand il faut foncer quoi, il faut foncer. Donc ça a été loin d'être un parcours intellectuel, c'est plutôt un parcours tripier comme on dit, non? Hein, le parcours avec les tripes plutôt qu'avec la tête quoi.
Et donc, vous trouvez cette première boutique. Comment vous la financez? Parce qu'il faut quand même de l'argent.
Je la finance à l'époque. Il y avait quelque chose qui, avec la loi LME, qui a considérablement compliqué les choses. C'est avec le crédit fournisseur. Voilà, le crédit fournisseur faisait que quand on était un bon commerçant, et j'ai eu la chance, pas autant que dans l'alimentaire, parce que si j'avais su, j'aurais choisi l'alimentaire. C'est qu'on pouvait, si on était un bon commerçant, c'est qu'on pouvait avoir vendu le produit avant de payer
les fournisseurs.
Voilà.
Ce qui est moins le cas maintenant qu'on doit payer plus rapidement les fournisseurs.
Voilà. Et surtout quand on est dans la bijouterie, parce que mon épouse avait une bijouterie, donc je connais très bien le poids du stock par rapport...
Mais nous, vous savez qu'on fabrique sur mesure, donc c'est tout l'intérêt.
Je sais très bien. Et vous êtes payé avant de payer.
Exactement.
C'est le bon principe pour éviter d'avoir un BFR qui pèse sur la rentabilité.
C'est ça. Donc, vous arrivez à financer entièrement la première boutique comme ça.
Je sais que j'avais été voir le banquier que je connaissais très bien.
Ouais.
Il m'avait dit, oui, ben, faut me faire un plan, un business plan, tout ça. Donc, j'avais fait un business plan, tout ça. Et j'ai été le voir. Il m'a dit, bon, vous n'avez pas signé le bail. Hein, faut signer le bail parce qu'on ne peut pas étudier le dossier si vous n'avez pas signé le bail. Donc, j'ai signé le bail, tout ça. J'ai emmené le business plan. Il m'a dit, bon, c'est bien. Bon, on va étudier ça. Donc, j'ai signé le bail. Oui, mais allez-y. Donc, j'ai commencé les trucs, les travaux, tout ça. J'allais voir mon banquier toutes les semaines. Oui, bon, ça arrive. Quand est-ce que vous ouvrez? Oui, mais c'est pas grave. Et puis, il a attendu 8 jours après l'ouverture, quand il a vu que le chiffre était nettement supérieur à ce que j'avais indiqué. Donc là, il m'a dit, ça y est, j'ai l'autorisation de crédit. J'ai dit, mais attendez, pourquoi vous voulez me donner des sous? J'ai jamais été aussi riche. Et au bout de 15 jours, j'étais encore plus riche. Et au bout d'un mois, j'avais plein d'argent sur le compte et j'avais pas encore les déchéances, quoi. Donc, à l'époque, j'ai dit, oh, ben non, c'est pas la peine. Hein. Vous gardez votre sous. Moi, je fais tout en autofinancement.
Donc, vous avez tout fait en autofinancement.
Voilà. Mais c'est avec le recul, il y a eu quand même une petite conséquence, c'est que pour ouvrir le deuxième, a fallu quand même à gagner un peu d'argent.
Et attendre un peu.
Voilà,
peut-être.
Attendre. Alors que si j'avais financé le premier, si je savais ce que je sais maintenant, j'aurais sans doute pris le crédit, j'aurais payé mes fournisseurs plutôt avec du crédit plutôt qu'avec les profits, quoi. Donc, ce qui fait que le deuxième magasin, j'ai attendu quelques années avant d'ouvrir le deuxième, quoi.
Je comprends.
Voilà, donc j'avais pas tout compris dans le business.
Bah,
mais
normal.
Dans le Kotler, c'était pas indiqué.
Donc, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout dedans, ça c'est
non,
sûr.
Non, il n'y a pas tout. Il y a du marketing grande entreprise, mais il n'y a pas les béabas du petit commerce.
Bah, c'est ça. Alors, vous parlez de votre deuxième magasin. Une question que j'avais, c'est beaucoup plus tard. Donc là, on est en 75 pour le premier et ensuite un petit peu plus tard pour le deuxième. En 1996, donc c'est à peine 20 ans après. C'est quand même pas si longtemps que ça. Bricorama entre en bourse.
Oui.
Quelles ont été, si on essaye de prendre un recul fou, pour vous, les grandes étapes? Parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tous les magasins, vous en avez eu plus de 250. Donc, on ne va pas faire toutes les ouvertures. Mais en revanche, quelles ont été pour vous les grandes étapes, les grands points clés qui ont fait que bah, vous êtes arrivé ensuite à l'entrée en bourse, à ce succès incroyable, les grands moments où vous avez senti que ça décollait?
Bah, ça se passait plutôt bien. Hein. J'ai jamais eu une année déficitaire. Donc, tous les ans,
toujours
j'ai gagné
rentable.
De l'argent. Donc, les grandes
les
étapes,
clients,
la
c'était
bourse,
pas un problème.
La bourse, c'était parce que je voulais racheter une très grande entreprise, quoi. Et les banquiers m'avaient dit, bon, j'avais pas les capitaux nécessaires, les fonds propres nécessaires pour la racheter. Mmh. Et ils m'avaient dit, si vous rentrez en bourse, vous pourrez lever des fonds, vous pourrez, ça a été une grande étape. Mais auparavant, j'avais racheté Bricorama, ouais. qui n'était pas mon enseigne. J'aurais fait des rachats d'entreprises, quoi. Mmh. Ça s'est pas fait. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais avec les reculs, on a l'impression que tout se passe facilement. Il y a eu forcément des petites erreurs, quoi. Mmh. Des petites erreurs. Peut-être à certains moments, j'aurais dû être beaucoup plus, peut-être un peu rigoureux. Dès le départ, j'ai pensé qu'il fallait être dans une coopérative, dans un groupement d'achat. Donc ça a été un bon choix dès le départ, avant d'ouvrir mon premier magasin. Mm. Donc et quand ils m'ont viré, parce qu'ils m'ont dit « Oui, mais plutôt que d'ouvrir des magasins, tu ferais mieux d'être plus attentif, tu commences un truc, tu n'as pas fini, il vaudrait mieux que tu sois un petit peu plus rigoureux au quotidien. »
Qui vous a viré, pardon, je n'ai pas compris.
La coopérative, j'étais chez Monsieur Bricolage,
d'accord.
qui était une coopérative. Mm. Et il me faisait le reproche, t'es trop entrepreneur et pas assez gestionnaire. Mm. Et moi, il fallait. Je m'occupais du détail, mais j'étais pas très soigneux, quoi. Mm. Vous voyez le bordel qu'il y a partout ici. Ça, c'est l'exemple même. Ça fait rien, je m'y retrouve, je perds pas de temps. On m'a pas appris à l'école que le béaba de la scolarité, c'est de l'ordre et de la méthode. Ça, ouais. on ne me l'a pas appris. Donc, conclusion, je me débrouille avec
vous débrouillez
ce que je sais
pas
faire.
Mal. Hein? Vous débrouillez pas mal du tout.
Non, mais c'est-à-dire que c'est le reproche qu'il me faisait de ne pas être assez ordonné, rigoureux, mais d'être entreprenant. Quoi. Mmh. Donc, ils m'ont viré. Ça a été une grande étape. Quoi. Ça a été une grande étape. Ils m'ont viré. Le rachat de Bricorama, ça a été une grande étape. La bourse, ça a été pas une grande étape, ça a été une erreur. L'erreur, ce n'est pas d'avoir été en bourse. L'erreur, c'est de ne pas avoir pu faire l'acquisition que je voulais. Il y a eu le roi Merlin et un groupe hollandais qui se sont mis en travers de moi pour racheter. C'était un groupe numéro 1 en Belgique, numéro 3 en France, numéro 1 en Espagne, numéro 1 au Portugal. Donc là, c'était, si j'avais fait ça, ça a été...
Mais ce que je trouve quand même assez fascinant, c'est qu'à 13 ans, vous quittez l'école, vous faites un CAP charcutier, et là, on est en train de parler d'une entrée en bourse.
Vous voyez, vous n'êtes pas gentil.
Mais non, ce que je veux dire, c'est que je suis hyper impressionnée parce que ce que je veux dire sans jugement, ce que je veux dire, c'est comment vous avez appris, est-ce que vous avez eu des mentors, comment vous avez fait pour apprendre tout ça?
Rien du tout, il suffit d'être bête et d'écouter les banquiers, ils s'occupent de tout, c'est vraiment, ils nous prennent beaucoup d'argent.
Et racheter des entreprises,
racheter
des entreprises, c'est pas si simple non plus.
Racheter des entreprises, c'est pas si simple. Si vous mettez du bon sens, si vous ne pétez pas les plombs, c'est compliqué, c'est maintenant. Mmh. Maintenant, j'ai du mal. Maintenant, j'ai du mal. À notre époque, maintenant, c'est compliqué. À mon époque, c'était... Enfin, quand j'ai fait mon croissance, parce que je connaissais le métier, bien le métier, le potentiel. Quand vous rachetez une entreprise, c'est pas le prix que vous payez, ce n'est pas le problème le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Mmh. Et si vous savez ce que vous allez en faire et que vous ne pétez pas les plombs, c'est-à-dire à prendre vos désirs pour des réalités et à rester les pieds sur terre, ce n'est pas compliqué. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Mais si vous vous... Moi, pour moi, maintenant, c'est très compliqué parce que investir dans un métier que vous ne connaissez pas avec des niveaux de prix qui sont toujours trop élevés pour un acheteur, pour un vendeur, c'est jamais assez élevé. Pour un acheteur, ça ne l'est jamais assez. Mais si vous savez, si vous avez une idée de ce que vous voulez en faire, où vous voulez aller, ce n'est pas compliqué.
Bah écoutez, je prendrai vos conseils.
Mais dans la bijouterie, c'est compliqué.
C'est compliqué aussi, c'est sûr. Est-ce que vous avez eu, pendant toutes ces années, des personnes pour vous aider, en particulier des mentors, des... Je ne sais pas, on dit souvent que l'entourage, c'est hyper important, et j'ai l'impression que vous êtes entouré notamment de votre famille, mais quand même, vous avez été assez seul dans cette aventure.
Non, j'ai toujours été avec des collaborateurs. Toujours avec des collaborateurs. Regardez, il y a Carole qui est là. Ça fait 30 ans qu'elle est avec moi, qu'elle travaille. En dessous, Olivier, ça fait 30 ans. J'avais beaucoup de collaborateurs. Vous voyez, beaucoup de fidélité. Beaucoup de fidélité. Ça, je crois que c'est un aspect, quand on crée son entreprise, on l'a créé avec des hommes, tout ça. Et puis, vous les récompensez. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que je leur devais beaucoup, que sans eux, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc, mes mentors, c'était eux. Et puis, naturellement, je me suis l'autodidacte. S'ils ne se forment pas autodidacte, hein, c'est le principe de l'autodidacte, s'ils ne se forment pas au quotidien, il n'avance pas, quoi. Alors, des mentors, non. De bons collaborateurs, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire un LBO en disant je voulais que ça soit l'entreprise appartenant aux collaborateurs, oui. Parce que j'estimais qu'ils avaient peut-être plus de mérite que moi, hein, parce que moi, j'ai le beau rôle, c'est eux qui sont au fourneau, quoi. Voilà, donc, non, c'est des mentors. Bon, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai toujours été curieux, tout ça. Mais d'avoir une personne en particulier, non. D'avoir un coach, non. J'ai connu des gens qui avaient des coachs. Ouais. J'en ai connu un qui était très, très... Je lui ai racheté son entreprise, mais il était fou. Il avait un coach, une star qui venait en avion, qui habitait sur la côte. Ah, oui. Il venait... pour le former et tout, je trouvais ça...
Alors vous, justement, vous disiez que vous formiez, que c'était important pour vous, et j'ai ce sentiment depuis le début que vous êtes en permanence comme ça dans le fait de vouloir aller de l'avant et vous former. Quelles étaient un peu vos méthodes? C'était en rencontrant des gens? Vous disiez que vous étiez curieux?
Oui, beaucoup la lecture.
La lecture, oui, aussi, beaucoup.
Beaucoup la lecture. Les journaux, moi, si je n'ai pas mes journaux, depuis toujours, hein, si je n'avais pas mes journaux, j'étais malheureux. Hein. Le soir, en rentrant à la maison, si je n'avais pas à manger, ce n'est pas grave. Mais si on n'avait pas acheté mes journaux, les enfants, ils se faisaient engueuler. Ah oui, ça, les enfants, il fallait qu'ils aillent acheter le journal, hein, sinon... Non, ça, impossible de passer une soirée, un jour sans lire un journal. C'est
donc journal et livre aussi.
Et
livre aussi, j'imagine.
Ah oui, les livres aussi. Alors, mais les livres, c'est la nuit.
C'est la nuit.
Les journaux, c'est le soir. Les livres, c'est la nuit. Donc, c'est vrai, on le sait. Comme je vous l'ai dit, l'autodidacte, il doit être curieux, il doit regarder dans tous les domaines. Donc, effectivement, c'est... Parce qu'au-delà de Bricorama, bon, vous savez, j'étais le précurseur dans l'éolien. Hein. J'étais vraiment le premier, un des trois premiers dans l'éolien. Hein. Et si j'avais... Bon, j'étais occupé avec le bricolage. Sinon, avec le en arrière, je serais riche actuellement. Hein. Si j'avais... Oui, mais plus riche encore. Mais d'autres activités, dans le solaire, dans le thermosolaire,
ouais,
dans le pellet.
Mais bon, on ne peut pas tout faire.
Vous savez ce que c'est que le pellet, oui?
Non, pardon.
Vous avez vu un exemple en bas. Le pellet, c'est des granulés de bois qui servent, vous savez, pour le chauffage.
D'accord.
Hein, avec l'alimentation.
Oh oui, tout ce qui est énergétique, etc.
Voilà, donc il faut se former au quotidien. Je me méfie des coachs parce que j'ai eu des conseils, que ce soit banquier, tout ça, mais j'ai souvent vu qu'ils voulaient chercher plus à... Bon, naturellement, ils sont en décalage par rapport à ce que vous vivez.
Oui, ils ne sont pas dans l'opérationnel.
Voilà, pour eux, oui, plusieurs fois, j'ai fait des erreurs en me disant, oui, mais vous vous occupez de tout, il faut vous structurer, avoir des ceci, avoir des cela. Mais je dis, mais ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas l'entreprise. Oui, mais vous n'en sortirez pas si c'est, vous n'avez pas ceci. Si vous... Bon, c'est sûr, je n'ai pas loupé les grandes, la mise en place de l'informatique. Quand j'étais dans le groupement, on me disait, oui, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes ordinateurs, il y a encore, tu ferais mieux de bien gérer avec les documents qu'on te donne et tout. Donc effectivement, j'étais à l'écoute, l'informatique, tout
ouais,
ça.
Vous étiez à l'écoute aussi de voilà. discussions et nouvelles.
Voilà, mais pas de coach.
Très bien.
Surtout pas de coach.
C'est bien noté.
Plusieurs conseils éventuellement, mais pas qu'un seul.
Alors justement, ça tombe très bien. Je voulais parler de méthode de travail, parce que comme je vous ai dit, j'ai lu votre livre, que je recommande d'ailleurs aux auditeurs, on va en parler. Et donc ce livre, Ma boîte à outils pour la reprise, j'ai fait plein d'annotations quand je l'ai lu. Alors notamment, il y a un point particulier que j'ai trouvé important de souligner, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que vous travaillez énormément. Et donc on en parlait au début de l'émission du podcast. Vous disiez, voilà... le travail, c'est absolument clé et en fait, c'est certainement la clé du succès pour vous. Même là, donc vous avez 72 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes encore à la tête du groupe Bourdier. Vous travaillez encore, il est assez tard.
Il y a encore 1600 salariés.
Voilà, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez été tenté de déléguer, de prendre des vacances? Le travail pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui vous motive encore maintenant que vous n'avez plus besoin? Et est-ce que le travail est effectivement cette valeur si importante pour vous dans le monde de l'entreprise?
Bon, j'ai quand même pris des vacances. Hein, vous avez...
Je doute, un petit peu. Cas,
croyez-moi, je ne suis pas plus malheureux qu'un autre. Et pourquoi le travail? Parce que plus on travaille... Avant, j'avais beaucoup de centres d'intérêt et j'avais le cerveau qui était capable de s'occuper du travail et d'autres centres d'intérêt. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai le cerveau encore optimum à 100% dans le boulot, mais qu'en dehors, ça devient un légume, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'en dehors du travail, mon cerveau, ça ne l'intéresse pas.
Bah, c'est le travail qui vous maintient aussi énergétique, certainement.
Voilà, c'est ça. Mais c'est le cerveau qui... Le cerveau, j'ai l'impression que les neurones ne veulent plus travailler, ne veulent plus fonctionner que pour le travail.
Mais vous n'avez jamais eu de moment où vous en avez eu assez de travailler? Vous n'avez jamais eu de coup de blues, de moment où vous vous êtes dit...
Non, jamais. En plus de ça, j'ai une grande chance, c'est que mon épouse est encore plus travailleuse que moi.
Ah. Ça, c'est vrai que c'est un avantage.
Elle est encore plus travailleuse que moi, donc partir en week-end, c'est jamais possible. Comme elle a un commerce, elle travaille le samedi, donc c'est jamais possible. Non, elle est plus courageuse que moi. Jamais, au contraire, avant, c'était toujours le dimanche. Mais laisse-moi tranquille, pas question d'aller faire le marché. Laisse-moi, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, va travailler. Donc... et comme maintenant, franchement, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux que de travailler.
Bon. Alors concrètement, à la belle époque, enfin même encore aujourd'hui, ça ressemblait à quoi une journée de Jean-Claude Bourlier? Parce que pour quelqu'un qui travaille autant, racontez-moi, vous vous levez très tôt, qu'est-ce qui se passe?
Non, ça c'est... Non.
Ça c'est quand vous étiez à la boulange, voilà. mais maintenant vous ne le faites plus.
C'est 9h du matin. D'accord. Jusqu'à 20h, 20h30.
Et à l'époque où vous travailliez le plus, à l'époque où vraiment, par exemple, je ne sais pas, de l'introduction en bourse ou quand vous avez ouvert vos premières boutiques?
Quand entrer en bourse, on ne fout rien. Bon. On ne fout rien.
Avant alors?
Non, c'est plutôt quand on reprend des...
Ouais.
Non,
pour la reprise d'entreprise,
quand j'ai repris
voilà.
des entreprises, je me souviens quand j'avais repris Bricorama,
ouais.
il y avait les sociétés de crédit qui avaient décidé que de ne plus assurer mes fournisseurs. Donc, effectivement, le jour de Noël, le matin, le 25 décembre, une fois que les enfants ont ramassé leurs jouets, j'ai dit, je ne vais tout de même pas rester à la maison alors qu'il y a des choses à faire, il y a des factures à contrôler pour payer les fournisseurs et tout. Donc, je préférais... parce que quand on a une occupation, on a moins de soucis que quand on n'a rien à faire.
Oui, c'est vrai, mais bon.
Ouais. Mais faut.
Donc des
faut,
journées de travail dense.
J'ai aucun mérite dans la mesure où je fais quelque chose qui me plaît. J'ai pris. Je vois toujours le verre à moitié plein. Donc qu'est-ce que vous voulez? Je m'en vais pas. Ah oui, mais non, non. Je vois tout. Dans toute chose, je vois que le côté positif.
Ça, vous avez bien raison. Un autre point que je voulais évoquer avec vous par rapport au livre, c'est que vous dites qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'exemplarité.
Oui.
Une valeur que je trouve aussi très importante. Et je voulais simplement vous demander qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous et est-ce que vous avez un exemple de ce que ça signifie ?
L'exemplarité, ben, c'est par exemple, moi, je n'ai jamais pu avoir une grosse voiture. Oui, aux grandes dames de mes collaborateurs qui me disaient, et eux, je leur payais des plus belles voitures qu'à moi. Donc c'était, oui, monsieur Bourrelier, je disais non, mais je ne me voyais pas, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une Maserati, mais je ne me voyais pas aller dans les magasins alors que je refusais 50 euros d'augmentation à une caissière, aller avec ma Maserati le dimanche matin, ça m'est... quelque chose que j'ai toujours trouvé indécent. Donc, j'ai une voiture vraiment moins belle que certains de mes collaborateurs. Bon, voilà. Ça, c'est ça, l'exemplarité. L'exemplarité, c'est de faire en sorte que les collaborateurs ne vous trouvent pas injuste. Vous pouvez être exigeant, mais surtout ne pas être injuste. Et moi, j'ai toujours trouvé, j'ai jamais été la personne la plus payée dans l'entreprise. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était un bon exemple. Ou peut-être que comme ça, ça a évité qu'ils me réclament de l'augmentation. Donc ça, il peut y
c'est
avoir...
C'est votre côté négociateur.
Voilà, il peut y avoir l'exemplarité, mais avec un intérêt bien compris. Un intérêt bien compris. C'est ce qui fait, mais c'est ce qui faisait la fidélité des collaborateurs et l'investissement, qui s'investissait davantage dans le travail. Parce que ben, le patron montre l'exemple.
Bon. Je termine toujours le podcast par des petites questions un peu plus personnelles, si ça ne vous dérange pas. Alors, j'ai compris que vous n'aviez pas de coach, mais une des questions que je voulais vous demander, c'est le meilleur conseil qu'on vous ait donné.
Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui que mon père a dit toujours, travail.
Ça, c'est simple. Je voulais aussi vous parler de santé, deux secondes. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer si vous êtes une personne qui est plutôt du style à vouloir prendre soin de sa santé, faire beaucoup de sport, manger sainement? Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous dans votre carrière, l'hygiène de vie,
oui.
Ou pas
oui.
Tellement?
Eh, si. J'ai pas fait d'AVC. Non.
Parce que quand on travaille beaucoup, justement, parfois, ça se fait aux dépens de la vie personnelle et notamment de la santé.
J'ai la chance d'avoir une vie familiale heureuse, équilibrée. J'ai une épouse avec laquelle qui est très attentive. J'ai pas besoin d'aller chercher un paradis ailleurs, quoi. Puisque le paradis, je l'ai au quotidien. Donc je pense que je vis très agréablement.
Bon. Au niveau du sommeil aussi, si on reste un peu sur la santé, est-ce que vous êtes plutôt du style gros dormeur ou vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil?
Moi, je trouve que je suis un dormeur normal. Je lis beaucoup le soir, tout ça. Maintenant, avant, j'avais moins besoin de sommeil. Maintenant, je dors un peu plus, quoi.
Dormez quoi, 7-8 heures?
Oui, c'est 6-7 heures.
D'accord, 6-7 heures plutôt. 6, 7 heures. Oui, donc ce n'est pas non plus un gros dormeur, hein, ça va.
Non. Non, mais ce n'est pas non plus comme certains qui disent 3-4 heures,
quoi. Bon, mais ça, je n'y crois pas toujours, moi.
Ils le disent, il faut bien les... On est obligé de les croire.
Oui. Une autre question que j'aime bien poser, c'est par rapport aux moments difficiles, aux échecs, aux moments de doute peut-être. Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous viennent en tête dans votre carrière, qui ont été des moments particulièrement difficiles, dont vous pourriez nous parler, et surtout les enseignements que vous en avez tirés pour en faire partager les bénéfices aux auditeurs?
Le moment difficile, c'est quand j'ai pris la décision quand j'ai pas pu racheter Monsieur Bricolage, quand j'ai pas pu Quand j'ai vu que le marché devenait difficile, et c'était de décider de vendre l'entreprise, quoi. Ça a
Et ça, vous
été...
l'avez fait, c'était
Bon,
en 2016, hein, je crois.
voilà, c'est pas le moment. Un moment qui a été très pénible pour moi, ça a été quand j'ai voulu sortir de la bourse. Et là, il y a un actionnaire minoritaire qui a pris plus de 5% pour m'en empêcher et qui m'a accusé de tous les maux, qui m'a mis de nombreux procès, tout ça. Ça a été un moment très, très difficile.
Le juridique, comme ça, le fait d'être attaqué, c'est vraiment...
Oui, surtout que c'était vraiment attaqué de mauvaise foi. Il s'en est pris à ma famille en disant que j'étais indigne. Il a écrit à mes enfants, à mon épouse, heureusement qu'il n'a pas été crédible, mais c'était extrêmement difficile parce que je pensais que j'étais particulièrement honnête, hein, je pense. Hein, et peut-être à cause de ça, j'ai dit, je suis toujours en procès, il est toujours en procès contre moi. Parce que j'ai dit, naturellement, quand ils font ça pour vous mettre à bout et que vous acceptiez de racheter beaucoup plus cher ce qu'eux, ils ont payé. Donc ça a été un moment très, très, très pénible. Parce que j'étais indigne, j'avais pas les capacités. Enfin, tout ce qu'ils pouvaient faire pour... Mais tout ce qui vous... pas vous renforce et puis bon maintenant ça fait plus de 10 ans qu'il me fait des procès que les procédures de donc là maintenant ça a été un moment pénible quoi
Maintenant, vous êtes un peu
et
passé à
puis
autre chose.
quand j'ai pris la décision de vendre plutôt que de continuer à racheter ça a été un moment j'allais dire un moment avoir de l'argent sur un compte en banque ne vaut pas le plaisir d'avoir une belle entreprise. Comme je dis toujours, un agriculteur, c'est pas, il préfère avoir 10 vaches dans son étable que 9 vaches et une machine à laver. Alors vous me direz, c'est pas très bon, faut le prendre avec humour, hein, pas au pied de la lettre. Hein. Non, mais c'est vrai que
Mais c'est vrai, c'est vrai.
voilà, l'argent pour un entrepreneur, ça doit être un moyen, ça doit pas être un but, quoi.
Justement, si on revient quelques instants, juste, j'avais pas prévu de vous poser la question là, mais je le fais quand même, sur la vente de Bricorama, donc en 2016, je crois.
Non, début 2018.
2018, pardon. Oui, c'est ça, 2018. Donc vous vendez une partie, mais vous en gardez quand même une partie. Je comprends que ça a été un peu dur de
Mais
se
surtout dur
défaire.
pour les enfants qui
Ben
travaillent
voilà.
avec moi. Donc
Et qu'est-ce
surtout,
qui a motivé la décision de faire ça?
c'est-à-dire que le marché avec l'e-commerce, tout ça, avec la concurrence, on était petit. Il me fallait absolument acheter une entreprise plus grosse. Alors j'ai fait une proposition pour acheter Monsieur Bricolage, qui était une entreprise. C'était une belle acquisition, quoi, qui m'aurait permis d'être le numéro 3 sur le marché. Mais c'était à un moment, j'ai dit, c'est où on rachète, où on est racheté, mais la concentration fait que... Ou alors tout le monde me dit que j'ai bien fait vu tout ce qui se passe au quotidien sur le marché, parce qu'il y a quand même des bouleversements. Vous voyez le quotidien avec Kingfisher, Castorama, Brico Dépôt, les
Ça se passe pas
difficultés,
très bien,
les
oui.
fermetures et tout. Monsieur Bricolage, ils sont vraiment en perdition. Enfin, c'est un marché qui est
C'est
très
compliqué,
important,
oui.
mais très concurrentiel.
Pour terminer, une question que j'aime bien poser, c'est un sujet qu'on a évoqué, je suis ravie de vous la poser parce que je sais que vous lisez beaucoup, vous nous l'avez dit, mais c'est les livres que vous recommandez le plus autour de vous ou qui vous ont le plus marqué, tout
Non.
simplement.
Le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Bernard Clavel. Je ne sais pas,
Ah oui,
vous
ouais, je
connaissez
connais,
Bernard
ouais,
Clavel?
bien sûr, ouais, je connais.
Alors?
Mais alors, je me rappelle pas de quel titre, mais j'en
La
ai
grande.
lu.
Alors, il a eu le prix Goncourt avec La
Ouais.
Grande Patience. Et pourquoi j'aime bien
C'est
Bernard
pas
Clavel?
celui-là que j'ai lu, mais bon, je retrouverai le nom.
Alors, il y a Maurice et Bernard. Maurice, c'était le nouvel homme, c'est tout. Bernard Clavel, c'était parce qu'il a fait son apprentissage de pâtissier. Son livre, ça s'appelle La Maison des Autres. Et effectivement, j'ai toujours. Et puis, en plus, c'était un type très, très bien. Il a écrit beaucoup de romans qui ont été repris à la télévision, L'Hercule sur la place et tout. Bernard Clavel, c'était mon écrivain de cœur. J'ai jamais eu le temps, je voulais toujours le rencontrer, j'ai jamais eu le temps de... Et quand j'ai voulu le rencontrer, j'ai téléphoné à son épouse, elle m'a dit, mais vous savez qu'il est, il entend mal, il voit mal et il veut rester tranquille. Donc j'ai jamais pu le rencontrer, c'est Adol, donc ça c'est mon écrivain de cœur.
Il y a un
Autrement,
livre spécifique de Bernard Clavel qui vous a plu?
La maison des autres,
La
c'est
maison
quand
des
il était
autres.
apprenti pâtissier, quoi. Donc c'est vraiment le coup de cœur. Après, ben, naturellement, j'ai lu les grands écrivains. J'ai vu que le père Goriot, d'ailleurs, dans mon livre, je reprends les phrases du père Goriot, effectivement, qui j'ai évité d'être le père Goriot, à savoir, c'est le commerçant qui, effectivement, après avoir fait fortune, veut être dans le grand monde, un monde qu'il n'est pas, mais où les autres profitent de lui, enfin, l'entraînent à sa perte, quoi. Donc,
Père
sinon,
Goriot de Balzac.
en ce moment-là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Roland Dumas.
D'accord.
Donc, Roland Dumas,
Enfin, je connais de nom, mais je j'ai
l'ancien
pas de.
ministre, effectivement, c'est une biographie, quoi.
D'accord.
C'est une biographie. Et si un livre que je peux vous recommander, qui m'a vraiment... Le Totem du loup.
Le totem du loup, je
Le
connais pas du
Totem du
tout.
loup, alors ça, je vous le recommande. Ça se passe en Chine. C'est pendant la révolution culturelle. C'est un étudiant chinois qui est envoyé pour se rééduquer en Mongolie, quoi.
D'accord.
Et naturellement, c'est un livre qui, en France, a été un petit peu connu, mais en Chine a été vendu à plusieurs centaines, au moins 100 millions
Et donc
d'exemplaires.
par un auteur chinois.
Oui, par un auteur chinois. Et les Chinois ont fait le film par Jean-Jacques Hano, qui a fait le... Mais le film n'est rien parce qu'il n'a pas la profondeur du Totem du loup. C'est un livre, premièrement, sur l'espace, les paysages et surtout les temps qui changent avec... Alors ça, si je vous le garantis. Je vous le garantis. Si, mais...
Bon moment pa passé garanti.
Ah oui.
Bon, bah je noterai tout ça dans les notes de l'épisode. Jean-Claude, merci mille fois pour tout votre temps. La dernière des dernières questions que je pose toujours à mes invités, c'est si jamais on veut vous suivre sur dans le monde merveilleux du web. Alors je sais que c'est pas toujours simple, mais est-ce
Pas
qu'il y a
du
des
tout.
moyens de le faire? Par exemple sur LinkedIn peut-être? Est-ce que vous avez un LinkedIn ou
Non.
en allant sur le
Non.
site
Non,
du
j'ai
groupe
rien du tout.
Bourrelier?
J'ai rien du tout. Là, je suis sur des sites. Quand vous tapez mon nom, il y a des trucs. Quand je me vois, je ferme tout de suite. Mais c'est tout. Je fais tout pour essayer de ne pas être sollicité
Très bien.
par. Sinon, après, déjà, ça nous prend beaucoup trop de temps.
C'est sûr.
Voilà. Donc,
Bon, bah dans ce cas, si les auditeurs ont des questions, on va
restons
rester
discrets pour
discret.
être heureux.
Exactement. On
Hein,
va
je vous l'ai dit.
vivons cachés, vivons heureux. Si les auditeurs ont des questions, qu'ils me les posent directement, éventuellement, je vous les transmettrai.
Avec
Voilà.
plaisir, avec plaisir.
Merci mille fois Jean-Claude et je vous dis à bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.